France Inter.
Citoyens et citoyennes,
camarades,
compagnons,
travailleuses, travailleurs,
françaises, français.
Et tous les autres, bienvenue dans Enquête de politique. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Après avoir consacré un de nos premiers numéros d'Enquête de politique au wokisme, ce concept protéiforme, émission que je vous conseille vivement d'écouter en podcast sur l'appli Radio France, nous explorons aujourd'hui l'anti-wokisme. Parce que finalement, quand un terme qui désigne une tendance, un phénomène ou des idées politiques est difficile à cerner, et c'est le cas du wokisme, souvent le mieux pour tenter d'y voir plus clair, eh bien c'est de se pencher sur ce que disent les contempteurs de l'idée en question. Car le wokisme est devenu, depuis le tournant des années 2020, un stigmate, une insulte, et l'anti-wokisme un cri de ralliement. Certains disent même que Donald Trump doit sa victoire à son discours anti-woke. L'anti-wokisme peut être l'alerte d'universalistes inquiets de l'émergence d'une nouvelle pensée dite antiraciste, mais une pensée qui, pour se déployer, catégoriserait à outrance les victimes et, ce faisant, recréerait des discours identitaires, des assignations, des essentialisations qui, en bout de course, morcelleraient la société, ce qui, quand on prétend lutter contre le racisme, serait particulièrement contre-performant. Le wokisme serait aussi, pour ceux qui s'y opposent, la dérive d'une grille de lecture de la société systématiquement construite sur l'affrontement en toute chose entre dominés et dominants. Enfin, les anti-wokistes affirment que cette idéologie ou cette façon d'envisager l'antiracisme aboutit à une sorte de dictature intellectuelle des minorités victimisées, poussant la majorité à se raidir et à tenter des solutions politiques autoritaires. L'anti-wokisme est-il une panique conservatrice face à un délire progressiste ou la résistance d'une coalition de dominants terrifiés par une génération montante qui entreprend une formidable révolution anthropologique en se débarrassant de constructions sociales ancrées depuis des siècles? Le wokisme et l'anti-wokisme, c'est possible aussi, sont-ils des concepts largement artificiels d'une élite intellectuelle privée des vieilles grilles de lecture marxiste, libérale, capitaliste, qui furent le cadre confortable de décennies de controverses, aujourd'hui usées jusqu'à la corde? Pour évoquer l'anti-wokisme, nous sommes avec Thomas Hochmann, professeur de droit public à l'Université Paris-Nanterre, et la sociologue Nathalie Elnick, chercheur émérite au CNRS. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Nathalie Elnick, j'ai dit chercheur et pas chercheuse. Je vous ai demandé avant, vous préférez chercheur?
Oui, parce que chercheur, c'est une fonction. Et une fonction, c'est neutre par définition. Alors que chercheuse, ce serait un attribut de la personne. Et ce n'est pas le cas. C'est vraiment...
Alors, vous écrivez chercheur avec un E ou sans E?
Non, sans E, parce que je suis pour l'universalisme féministe et donc pour la neutralisation, dans la mesure possible, de la différence des sexes lorsqu'elle n'est pas pertinente. C'est...
Alors,
la
Nathalie
définition.
Voilà. Nathalie Elnick, vous avez écrit, et il en sera largement question dans cette émission, « Penser contre son camp, itinéraire politique d'une intellectuelle de gauche », c'est chez Gallimard. Vous avez aussi écrit en 2023 « Le wokisme serait-il un totalitarisme ?» On est en plein dans le thème de l'émission, et ça c'était donc en 2023 chez Albin Michel. Et Thomas Hochmann, on vous avait déjà reçu pour ce livre « On ne peut plus rien dire » aux éditions Anna Moza.
On vit dans un monde où on peut quasiment tout dire, et parfois des contre-vérités manifestes. Et pourtant, nous vivons aussi, c'est le même monde, dans un monde où vous avez la cancel culture, le wokisme et tout le tintouin, qui peut vous tomber dessus en vous disant « vous n'avez pas le droit de dire ça ». Comment ? Vous lisez Homère ? Quand même une vision très masculine de l'Antiquité, Homère.
D'un côté, les wokistes décivilisent, et ensuite, les islamistes recivilisent. Une fois que les premiers ont fait la table rase, les seconds arriveront, ils arrivent déjà pour reciviliser.
Il n'y a que deux genres. Il n'y a que des hommes et des femmes. Vous pouvez aller chez le médecin et vous la faire couper, mais à la fin de la journée, vous n'êtes qu'un homme ou une femme qui se l'est fait couper.
Voilà, pour introduire ce débat, ce petit medley qui montre l'étendue de la pensée de la plus rationnelle à la plus réactionnaire et à la plus dure de la pensée de l'anti-wokisme. Vous avez reconnu peut-être Édouard Philippe d'abord, Philippe de Villiers, et puis vous n'avez sans doute pas reconnu parce qu'il n'est pas très célèbre en France, Mark Robinson, qui est un républicain noir et très anti-wokiste, qui a fait de l'anti-wokisme son combat. Je vais d'abord vous demander à chacun de vous quelle est la définition du wokisme. On a eu une émission, je l'ai dit dans mon introduction, et encore une fois, j'incite nos auditeurs à aller la réécouter. Ces deux émissions font un tout. Donc, Nathalie Hennick, quelle est votre définition du wokisme?
Alors, ma définition, elle implique que pour bien comprendre ce qu'est le wokisme, on pense contre son camp, comme pour reprendre le titre de mon livre, puisque le wokisme est un terme qui a été utilisé par la droite américaine et l'extrême droite américaine pour stigmatiser les nouvelles formes de causes progressistes. Et donc, l'anti-wokisme ayant été associé immédiatement à la droite, le wokisme est du même coup associé à la gauche. Or, tout ce que j'essaye de montrer, c'est que le wokisme, pour les raisons que je vais dire, repose sur des principes qui sont fondamentalement opposés aux valeurs traditionnelles de la gauche, notamment en France,
les valeurs républicaines.
Exactement, puisque ce qui caractérise le wokisme, c'est l'intersection entre, d'une part, le communautarisme ou l'identitarisme, c'est-à-dire le fait de réduire chaque personne à un représentant d'une communauté, que ce soit de sexe, de race, d'orientation sexuelle, etc. Et donc ça, c'est la première dimension. Et l'intersection, c'est avec la deuxième dimension, qui est le fait de tout réduire à la domination. Et l'idée que toutes ces communautés se définiraient par le fait qu'elles sont soit dominantes, soit dominées, et que leurs membres seraient donc soit des bourreaux, soit des victimes. Et lorsqu'on croise ces deux conceptions, on obtient cette chose, vous l'avez très bien dit en introduction, protéiforme, qu'est le wokisme. Pourquoi protéiforme? Parce que ces communautés étant multiples, le wokisme peut se retrouver aussi bien dans ce qu'on appelle le néo-féminisme que dans ce qu'on appelle maintenant l'intersectionnalité, le décolonialisme, les luttes LGBT, etc., etc. Toutes sortes de causes qui, au départ, sont des causes, me semble-t-il, parfaitement légitimes d'un point de vue de gauche, puisque ce sont des causes qui militent pour l'égalité et l'absence de discrimination, mais qui, poussées à l'extrême et communautarisées et totalement réductrices de la pluralité du monde social, parce que ne voyant que des rapports de dominants et de dominés, finissent par se retourner contre elle-même, et par pousser des gens qui, traditionnellement, auraient plutôt voté à gauche à ne plus voter à gauche, voire à voter à droite, comme ça a été le cas aux dernières élections américaines notamment.
Thomas Hockmann, est-ce qu'on a tort de mettre un « isme » comme suffixe après le mot « woke », éveillé, parce que finalement, le wokisme, c'est toute une série d'objets de recherche, plus qu'une idéologie construite?
Moi, j'ai un petit peu de mal, en fait, à définir le wokisme, parce que je crois que le wokisme n'existe pas, en fait, ou il existe uniquement dans le discours des anti-woke. On peut dire, comme Sartre disait à propos d'autre chose, que c'est l'anti-woke qui fait le woke. Le woke n'existe que dans ce discours anti-woke. C'est pour ça que je suis très content que votre émission porte sur l'anti-wokisme plutôt que sur le wokisme. Et alors, qu'est-ce que c'est le wokisme selon les anti-woke? C'est la thèse que la société, en particulier les universités et les jeunes peut-être, seraient dominés par une idéologie, alors qui est hostile à la liberté d'expression et puis qui est favorable à tout un ensemble de choses. Alors ça a été dit, extrêmement disparate, les extraits que vous avez montrés l'indiquaient bien. Donc une idéologie favorable à l'islam le plus radical, à l'écriture inclusive, au communautarisme. Et donc on met tout ça dans un sac ensemble, comme s'il y avait là une espèce d'organisation structurée ou d'idéologie cohérente. Et puis surtout, on fait comme si c'était quelque chose qui existait et qui était même très puissant. Or il n'a jamais été démontrer que ce prétendu wokisme était si fort, notamment dans les universités. Ce sont toujours les mêmes anecdotes qu'on répète, qui sont soit isolées, soit extrêmement exagérées, pour donner l'impression que voilà, il y a une domination. Ou alors, on dresse la liste d'articles, de titres, de séminaires, on prétend attention à certains mots pour faire croire qu'il y aurait comme ça une idéologie qui dominerait l'université. C'est complètement faux et je crois que c'est très dangereux.
Alors, mais parce que Nathalie Hennick parlait de cette grille de lecture dominé, dominant. Ça, c'est une nouvelle grille de lecture. Avant, la gauche parlait de classe, avec évidemment la grille marxiste. Cette grille dominé, dominant, est-ce qu'elle ne, finalement, elle ne crée pas une nouvelle vision des choses qui paraît compliquée à cerner finalement et qui a l'air d'englober tout dans une grille un peu simpliste.
Ben, je crois que c'est parce que on décrit un ensemble de recherches extrêmement variées comme un ensemble. Et c'est pour ça que ça donne cette impression d'incohérence. Si vous voulez, il y a toujours des gens qui travaillent sur les questions de classe, sur les dominations économiques, qui travaillent également sur d'autres types de dominations en raison du sexe ou de la couleur de la peau. C'est pas parce que on travaille sur les discriminations en fait qu'on défend un projet politique d'assigner les gens à certains groupes. Je crois que là, il y a aussi une erreur qui est commise par l'anti-wokisme.
Nathalie Hennick, au cœur de ce qu'on pourrait appeler, je mets des guillemets définitivement, le wokisme, il y a cette idée issue, dite de la French Theory, les universitaires américains aiment beaucoup la French Theory, Jacques Derrida, l'idée de la déconstruction. Alors, il n'en a finalement pas beaucoup parlé, Jacques Derrida, dans ses écrits, mais on a retrouvé une phrase qui définit, selon lui, Jacques Derrida, écoutez-le, la déconstruction.
Un des gestes de la déconstruction consiste à ne pas naturaliser, à ne pas faire comme si ce qui n'est pas naturel était naturel. Comme si ce qui est conditionné par l'histoire, par la technique, par l'institution, par la société, était une donnée naturelle.
Alors, c'est quand même une démarche de gauche d'essayer de déconstruire, d'essayer de montrer que les hiérarchies que l'on dit et que l'on croit naturelles ne le sont pas forcément, qu'il y a eu au cours des siècles eu un ordre social imposé, des dominations. Est-ce que c'est pas une bonne idée d'essayer de déconstruire? Et est-ce que c'est pas finalement ce que font ceux que vous critiquez en tant que woke?
En effet, la déconstruction, ça a été un peu le mantra des grands auteurs progressistes depuis les années 60, que ce soit Derrida, Foucault et Bourdieu. Et la systématisation actuelle de cette notion de pouvoir ou de domination est l'héritage de ces pensées, et qui se retrouve dans cette obsession du socialement construit. Hein, l'idée que tout serait socialement construit et ne serait pas naturel, qui est une façon de justifier le fait que l'on veuille changer l'ordre du monde, ce qui est tout à fait légitime. Simplement, lorsque ça devient un slogan et que à peu près une grande partie des articles en sciences sociales aujourd'hui tournent autour de l'idée que, voyez, c'est socialement construit, on a quand même quelque chose d'un petit peu réducteur pour la pensée. Et surtout, le problème, c'est que une partie de ce courant qu'on appelle postmoderne, qui est en fait un courant français revisité par les États-Unis et revenu comme un boomerang dans les universités françaises, lorsque ce courant s'en prend à la notion même de vérité scientifique, pour dire, voyez, il n'y a pas de vérité parce que tout ça est socialement construit, ça devient extrêmement dangereux.
Par exemple, sur les vérités scientifiques qui sont battues en brèche.
C'est la notion même de vérité. Si vous lisez la littérature, disons, postmoderne, vous aurez des gens qui vous diront, mais la science est socialement construite, il n'y a pas de vérité objective. Alors, tout le courant de la sociologie des sciences, hérité de Bruno Latour notamment, a pu aller dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment un courant assez puissant qui, du coup, se retourne contre une valeur fondamentale héritée des Lumières et héritée du progressisme, à savoir la valeur de rationalité scientifique contre les superstitions religieuses. Et donc là, on se retrouve, là encore, avec quelque chose qui, au départ, a été une valeur progressiste et qui, poussée à son extrémité, devient totalement obscurantiste.
Est-ce que c'est pas plutôt un problème de définition du progressisme? À partir du moment où le progressisme a mélangé le progrès humain, le progrès civilisationnel et le progrès technique, et qu'aujourd'hui, une certaine forme de progrès technique n'offre plus des solutions et peut même devenir un problème pour l'avenir de l'humanité. Est-ce que le mot progressisme, et on a aussi une émission que j'engage les auditeurs à réécouter sur le progressisme, est-ce que le mot progressisme n'est pas finalement perverti par ce dilemme?
En fait, c'est surtout que ce mot est très utilisé comme un euphémisme pour dire de gauche. À présent que la gauche s'est totalement retournée, comme je l'explique dans le dernier chapitre de mon livre « Penser contre son corps », donc qui est consacré à ces retournements de la gauche dans les 10 dernières années qui font qu'une partie de la gauche radicale, ne ressemble plus du tout à ce qui était censé être la gauche pendant des générations et des générations. Du coup, il devient difficile d'utiliser le qualificatif de gauche et on dit quelquefois progressiste pour avoir un euphémisme.
Thomas Hockmann.
Moi, je voudrais contredire quand même l'idée que les recherches aujourd'hui en sciences sociales, de manière majoritaire, ne prêtent plus attention à la notion de vérité. Je crois que là encore, c'est quelque chose qui n'a jamais été démontré. Les gens travaillent dans les recherches en sciences sociales, ils suivent des méthodes, ils cherchent à établir des faits, et il ne faut pas faire croire que l'université, ces recherches-là, seraient dominées aujourd'hui par une espèce d'indifférence à la vérité. En revanche, là où il y a une véritable lutte organisée et très puissante contre la vérité, contre la démarche scientifique, contre la raison, et ben c'est aux États-Unis où l'anti-wokisme est au pouvoir. C'est Trump et ses complices qui, eux, s'attaquent violemment à la vérité, à la raison, en reprenant exactement les mêmes arguments que les anti-wokistes en France, même s'ils s'en défendent.
Nous sommes toujours en quête de politique. Aujourd'hui, nous réfléchissons à l'anti-wokisme avec Thomas Hochmann et Nathalie Hennick.
France Inter, en quête de politique. Thomas Legrand.
Alors on va revenir sur la différence qu'on peut faire entre l'anti-wokisme américain et votre anti-wokisme à vous. Moi, quand je vous lis Nathalie Hennick, quand j'écoute Donald Trump, j'entends pas les mêmes choses, donc vous allez y revenir. Mais je voudrais revenir sur ce que vous aviez dit. Vous avez parlé de Bruno Latour, le penseur écologiste Bruno Latour. Est-ce qu'il défie la science, Bruno Latour, alors que justement, il considère que le progrès technique nous a amenés dans une impasse et qu'il faut, c'est sa pensée, et qu'il faut maintenant trier selon les progrès, faire des choix, lister les progrès techniques pour ne pas aller dans le mur du changement climatique. Où est-ce que vous voyez un défi à la science dans la pensée de Bruno Latour ?
Alors, il n'y a pas une pensée de Bruno Latour, il y a plusieurs pensées de Bruno Latour. Il y a plusieurs Bruno Latour. Le premier Bruno Latour, qui est celui qui a appliqué une méthode d'analyse pragmatique des épreuves par lesquelles doit passer une proposition pour devenir scientifique, pour faire l'objet d'un consensus chez les chercheurs, est enfin, vraiment une pensée qui m'a beaucoup inspirée, que je respecte beaucoup et qui est formidablement stimulante. Mais il y a ensuite des dérives, non seulement de Latour lui-même, mais aussi d'une partie de ses disciples, vers du coup une déconstruction systématique de la notion de science. Et j'avais moi-même fait un article sur la pensée de Bruno Latour comme étant une sociologie très catholique, parce que c'est la vieille opposition de la science et de la foi, hein, qu'on voit bien en arrière plan de sa pensée. Et puis le énième Bruno Latour écologiste est encore autre chose. Et donc, voilà, on ne peut pas le réduire à une seule dimension. Ce serait beaucoup trop réducteur. Il y a, de même que pour Pierre Bourdieu d'ailleurs, il y a pour moi des apports magnifiques dans la pensée de Latour comme dans la pensée de Bourdieu. Il y a aussi des dérives très problématiques dans leur pensée et surtout dans les usages qui ont été faits de leur pensée, notamment par les woke. Je reviens sur ce que disait à l'instant Thomas Hochmann. Le mot woke est utilisé par les woke eux-mêmes, hein, notamment aux États-Unis, pour dire nous sommes woke, nous sommes éveillés. Donc c'est pas du tout une invention des anti-wokismes que de qualifier ce courant de woke. Pour ce qui est de l'anti-wokisme trumpiste.
Oui, alors la différence entre l'anti-wokisme trumpiste et l'anti-wokisme hennickien.
Hennickéen, oui. Alors, je ne suis pas toute seule à militer pour une opposition au wokisme sur des bases qui ne sont pas des bases de droite et encore moins d'extrême droite, mais sur des bases de gauche. Et c'est ça toute l'ambiguïté de la question. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à penser contre son camp.
C'est le titre de votre livre.
Exactement. Je consacre dans le livre tout un chapitre à la question du wokisme, parce que ce qui est pourchassé, disons, par les anti-wokistes de droite comme Trump, c'est la notion même de cause en faveur de l'égalité. Et ça, évidemment, pour moi, c'est inacceptable, parce que la question de l'égalité est une cause fondamentale que je n'abandonnerai jamais. Ce que nous disons, nous, c'est que les dérives du wokisme sont des dérives anti-progressistes, contraires aux valeurs de la gauche. D'abord parce qu'elles sont contraires à l'universalisme républicain, puisqu'elles mettent en avant l'appartenance obligatoire à des communautés, à des identités qui nous séparent au lieu de nous rassembler. Et donc, pour moi, c'est un péché majeur contre les idéaux des Lumières. Par ailleurs, le wokisme est très attentatoire à la liberté d'expression via ce qu'on appelle appelle la cancel culture, c'est-à-dire que l'idée que les citoyens auraient le droit de s'opposer à la prise de parole de gens dont ils ne partagent pas les opinions. Alors qu'en France, nous avons des lois qui encadrent la liberté d'expression et nous avons normalement recours à la loi lorsque des propos excèdent ce que permet la loi. Aux États-Unis, ce sont les citoyens eux-mêmes, faute d'encadrement juridique de la liberté d'expression, ce sont les citoyens eux-mêmes qui interdisent de parole d'autres citoyens, et c'est cette culture américaine qui a été introduite en France et qui, à mon avis, est extrêmement délétère parce qu'elle autorise des gens à boycotter des conférences et empêcher des gens de parler, interdire des prises de parole à l'université, aller en l'encontre de la liberté académique, comme cela s'est passé récemment à Lyon 2, où un enseignant a vu son cours envahi par des militants pro-palestiniens qui l'ont empêché de faire son cours. Donc on a toutes sortes d'exemples d'atteinte à la liberté d'expression qui, là encore, sont des dérives woke contraires aux valeurs de la gauche.
Alors là, Thomas Hochmann, il vous faut répondre parce que c'est un peu le thème de votre livre. On ne peut plus rien dire, nous dit Nathalie Hennick.
Oui. Il y a plusieurs choses, il y a plein de choses. D'abord sur le fait que, c'est vrai, il arrive que des conférences soient chahutées, que des événements soient annulés. C'est vrai, c'est sans doute pas nouveau, mais ça arrive. Mais ce qui est important, c'est que
c'est
ça vient...
C'est arrivé à Aron en son temps, par exemple.
Mais surtout, ça vient de tous les camps idéologiques. Ça arrive de tous les côtés. C'est faux de dire que ce serait quelque chose qui serait propre à une certaine gauche. Je sais pas, rien que cette semaine, par exemple, le président de l'université Paris 2 a critiqué, a demandé à supprimer les affiches d'une conférence parce qu'elle déplaisait à des catholiques intégristes. Il y a des anecdotes comme ça. On fonctionne toujours à partir d'anecdotes en attirant l'attention sur celles qui viennent d'un camp idéologique plutôt que d'un autre. Mais ça, ce sont des phénomènes, des choses qui se passent, qui viennent de tous les côtés. Par ailleurs, il y a aussi, il faut vraiment insister là-dessus, je crois, l'idée que ce serait ce camp prétendument woke, en France personne ne se revendique de wokisme, mais ce serait prétendument ce camp woke qui dominerait les débats et donc effectivement on ne pourrait plus rien dire. Alors il y a plein de, il me semble, d'inexactitudes là-dedans. D'abord, on ne peut plus rien dire sans être contredit. C'est surtout ça qu'on veut dire la plupart du temps. C'est qu'on est contredit, les débats sont vifs. Bon, ça c'est pas une restriction de la liberté d'expression. Par ailleurs, on prétend que ce camp woke, encore une fois, dominerait les débats, mais regardez le nombre de dossiers, de une, de magazines, le nombre d'émissions, il est extrêmement présent. Il y a même des appuis gouvernementaux pour l'anti-wokisme. C'est l'anti-wokisme qui est extrêmement fort aujourd'hui dans notre pays, qui est largement financé, notamment par un milliardaire d'extrême droite. Il y a derrière de l'argent, un soutien politique, un soutien médiatique. Donc vraiment, présenter les anti-woke comme une minorité qui lutterait contre la pensée dominante, c'est vraiment un retournement, il me semble, des choses.
C'est ça, en fait, Nathalie Hennick. On se demande si les anti-woke, dont vous vous revendiquez, de gauche en plus, ne disent pas finalement qu'un antiracisme que vous considérez comme malhabile et qu'il est peut-être, semble plus grave et vous inquiéter un peu plus que le racisme qui progresse, et en tout cas l'extrême droite et les autoritaires qui progressent de façon beaucoup plus puissante.
Je vois tout à fait ce que vous voulez dire, et vous avez raison d'attirer l'attention sur la priorité à donner à certaines causes. Simplement, la priorité donnée à l'antiracisme est une cause très ancienne, qui n'a pas attendu les woke pour exister. Le problème, c'est lorsque ces causes-là sont reprises sous des formes qui attentent à certaines valeurs. Et lorsque on finit par oublier les inégalités sociales, parce que on va ne voir que le fait que des gens soient racisés. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot racisé? C'est un des termes typiques du wokisme, hein, avec intersectionnalité, patriarcat, etc.
Les woke, entre guillemets, encore une fois, disent le mot racisé parce qu'ils se sentent racisés par ceux qui les racisent, justement.
Oui, moi j'utilise le mot discrimination en raison de la couleur de peau, infériorisé, mais je n'utilise pas racisé. Pourquoi? Parce que ça essentialise tout un ensemble de personnes qui n'ont en commun que la couleur de la peau, comme étant, par définition, quoi qu'il arrive, quels que soient les contextes, victimes de discrimination. Ce qui est faux, d'abord, parce qu'on est heureusement dans un pays qui a rendu les discriminations raciales illégales, ce qui ne veut pas dire qu'il les empêche effectivement, mais elles sont quand même pas systémiques, comme on le prétend quelquefois. C'est en même temps, ce mot racisé est une insulte à tous les antiracistes qui n'ont jamais de comportement raciste. Et c'est en plus une façon d'enfermer les soi-disant victimes de cette racisme racialisation dans une position de victime absolue dont elles ne peuvent plus sortir. Lutter contre le racisme avec des arguments racistes, comme c'est le cas du mot racialisation, je ne l'accepte pas.
Thomas Hockmann, sur cette idée selon laquelle le nouvel antiracisme réenfermerait chacun dans des stéréotypes et finalement recréerait une société archipélisée, disent certains, au lieu de promouvoir un universalisme.
Je pense que ce sont les discriminations qui essentialisent les individus. Je ne pense pas que ce soit l'étude de ces discriminations ou la lutte contre ces discriminations qui essentialise les gens. C'est la discrimination qui crée la catégorie, si vous voulez.
On dit en France, avec notre pensée universaliste, qu'il n'y a pas de race. Mais il faut bien lutter contre le racisme, c'est déjà quelque chose d'étrange. Ouais, on reconnaît le racisme, mais pas les races.
Ça fait partie des arguments dans le débat, par exemple, lorsqu'on se demande s'il faut supprimer le mot race de la Constitution ou des lois contre le racisme. Certains disent que ça lui donne une sorte de reconnaissance officielle, d'autres disent qu'on a besoin de ce mot pour lutter contre le racisme. Ça ne veut pas dire qu'on l'accepte, mais ce que je voudrais dire, je pense, à mon avis, il y a deux types d'anti-wokistes, si vous voulez. Il y a des anti-woke de bonne foi, qui se sentent simplement dépassés ou qui sont inquiets, qui sont peut-être dupés par toute cette propagande qui assure qu'on ne pourrait plus rien dire, on serait dominé par la tyrannie woke. Et il y a aussi l'anti-wokisme stratégique qui, là, cherche véritablement à affaiblir ceux qui luttent contre les racistes, à les présenter comme des racistes, à affaiblir ceux qui luttent contre les autoritaires. Et le danger, il est là.
Et alors, peut-être qu'on peut, pour illustrer cette idée d'anti-woke stratégique, entendre ce que disait Marine Le Pen, c'était en mai 2023 au Havre.
Le wokisme, cette idéologie de la culpabilisation occidentale, le déboulonnage des statues, le saccage de notre langue par une écriture dite inclusive, la disparition de la notion même de femme biologique, la mise en œuvre de transitions de genre dès l'enfance, c'est-à-dire de mutilations physiques ou chimiques, l'injonction à l'autoflagellation historique. La majorité des Français trouvent cela fou. Je viens leur dire qu'ils ont raison. Ce qui est en jeu dans ce combat culturel, c'est l'esprit des Lumières, la valeur de la raison comme fondement scientifique de l'humanisme, des valeurs républicaines que sont la liberté, l'égalité et la fraternité.
Alors, nous sommes toujours en quête de politique. Aujourd'hui, nous réfléchissons à l'anti-wokisme avec Thomas Hockmann et Nathalie Hennick. Nathalie Hennick, vous venez d'entendre Marine Le Pen. Et là, on a parlé tout à l'heure de l'anti-wokisme réactionnaire de Donald Trump. Et nous avons l'anti-wokisme de Marine Le Pen. Et elle prend les habits de l'universalisme, liberté, égalité, fraternité. Finalement, ce que vient de dire Marine Le Pen, vous pourriez le signer. Alors, est-ce que c'est une entourloupe ? Comment vous réagissez à ça ?
Alors, ça fait partie de ces retournements de la droite qui sont symétriques des retournements de la gauche dont je parle dans mon livre. C'est vrai que j'aurais pu faire un chapitre aussi sur les retournements de la droite, mais qui m'intéresse moins, puisque moi, je suis quelqu'un de gauche. Et
on pourrait parler des retournements sur l'antisémitisme, d'ailleurs.
Justement. Alors, c'est assez frappant, et je suis évidemment, beaucoup l'ont remarqué, de voir comment le RN aujourd'hui, pour des raisons probablement essentiellement stratégiques, en tout cas les cadres du RN, ont repris tactiquement des valeurs et des principes traditionnellement de gauche pour se les approprier. Alors il y a eu la laïcité, ce qui me désole évidemment, parce que je suis une grande militante de la laïcité et je suis très opposée au RN.
Le RN propose une sorte de laïcité identitaire, ce qui est un oxymore théorique.
Absolument. Il y a également la question du travail, qui a aussi été reprise à la gauche par le RN. Et il y a, bien sûr, la lutte contre l'antisémitisme, qui est un retournement absolument historique et assez spectaculaire. Et puis, on vient de l'entendre aussi, la question de l'universalisme, qui traditionnellement est une valeur de gauche. Bon. Donc là, on a des retournements qui font qu'on ne sait plus où on habite. Il faut arrêter de faire ce qu'on appelle du campisme, c'est-à-dire de raisonner en termes de camp. À quel camp j'appartiens ? Est-ce que je suis à droite ou est-ce que je suis à gauche ? Il faut raisonner en termes de valeurs. Et lorsque le camp...
Alors là, en termes de valeurs, oui, celle qui affirme les valeurs avec des excès, puisqu'elle part de castration chimique quasiment, enfin, voilà,
tout à fait.
Qui n'existe pas.
Il faut raisonner en termes de valeurs auxquelles nous adhérons, plutôt qu'en termes de camp. Et moi, je ne vais pas devenir pro-RN parce que j'ai des valeurs qui ont été, d'une certaine façon, confisquées par le RN. Et donc, j'essaye d'inciter des gens de gauche à cesser de systématiquement se demander si ça, c'est plutôt RN ou c'est plutôt ceci ou c'est plutôt cela. Est-ce que ce sont des valeurs que nous voulons défendre ou est-ce que ce sont des valeurs que nous abandonnons? Et c'est ça le problème fondamental aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut savoir penser contre son camp lorsque son propre camp a abandonné des valeurs fondamentales.
Thomas Hockmann.
Mais il ne faut pas oublier de penser contre le camp adverse. Et moi, ce que je dis aux anti-wokistes de bonne foi, c'est qu'ils se demandent qu'est-ce qui est finalement le plus important, le plus urgent
Vous
aujourd'hui.
Mettez Nathalie Hennig dans les anti-wokistes de bonne foi.
Bien sûr. Et donc, qu'est-ce qui est le plus urgent aujourd'hui? Est-ce que c'est qu'une conférence ait dû être décalée dans une université la semaine dernière? Ou bien, est-ce que c'est que l'extrême droite, soutenue par Trump, est sur le point d'arriver au pouvoir dans plein de pays, dont le nôtre?
Mais c'est justement l'argument que nous avions déjà échangé à ce sujet, c'est que, me semble-t-il, le wokisme est le meilleur allié de l'extrême droite. Pourquoi? Parce qu'il déroule un tapis rouge aux arguments de l'extrême droite.
Mais on vient de l'entendre.
On vient de l'entendre dans le discours de Marine Le Pen. On l'a entendu avec Trump. Si le wokisme n'avait pas donné des arguments sur.
Est-ce que vous ne gonflez pas, c'est ce que j'ai l'impression que vous reproche Thomas Hockmann, est-ce que vous ne gonflez pas le phénomène woke, surtout en France? Et finalement, est-ce que ça, le fait de le gonfler à l'hélium,
ça donne des arguments un peu artificiels. L'université aujourd'hui est bourrée de programmes diversité, équité, inclusion qui vont à l'encontre du mérite scientifique et qui prétendent
en France, absolument,
sélectionner des projets de recherche ou des chercheurs, non pas sur la base de leur intérêt ou de leur mérite, mais sur la base de l'appartenance ethnique, de sexe, etc. Par ailleurs, je vous donne juste un exemple de l'infusion de cette idéologie woke dans le débat public. Au moment du procès de Gisèle Pellicot, on a entendu des discours de, j'ose pas les appeler féministes, elles se prétendent féministes, elles sont des, ce qu'on appelle des néo-féministes, disant tous les hommes sont coupables, tous les hommes devraient battre leur coulpe, il y a une culture du viol partagée par tous les hommes. Parce que pour qu'il y ait culture, il faut qu'il y ait des valeurs partagées, une transmission, une justification juridique, etc., une absence d'interdit judiciaire. Bon, on n'a pas tout ça. Tout ce qu'on peut avoir, c'est des tendances pulsionnelles, mal réprimées chez certains hommes. Mais dire que tous les hommes seraient porteurs d'une culture du viol, c'est faire insulte à tous les hommes qui ne sont pas des violeurs. C'est inacceptable. Et c'est en plus considérer toutes les femmes comme des oies blanches qui seraient par définition forcément victimes. Pour moi, c'est contraire à toutes mes valeurs.
Eh bien, on va écouter un homme doux. Il s'appelle Ours.
Il nous reste du temps pour parler. Il nous reste devant, du temps pour réparer. Est-ce qu'on va essayer? Est-ce qu'on peut y arriver? Il nous reste devant, encore un long parcours. Il nous reste du temps avant de faire le tour, l'amour et ses nuances, ses éclairs, sa patience. 6 mois, 1 an, ou peut-être quelques heures. Laisse-moi du temps pour nous emmener ailleurs. Laisse-moi du temps pour devenir meilleur. Il nous reste la nuit, des refrains, des mélodies, encore quelques envies, des étés, des trains partis, avant de tout jeter par terre. Laisse-moi du temps pour mieux faire. 6 mois, 1 an, ou peut-être quelques heures. Laisse-moi du temps pour nous emmener ailleurs. Devenir meilleur. Six mois, 1 an, ou peut-être quelques heures. Laisse-moi du temps pour nous emmener ailleurs. Laisse-moi du temps pour devenir meilleur. Parce qu'on est pourrait tomber à tort. On est au bord. Il nous reste le soir. La fatigue au coin des yeux. C'était un peu hagard, mais toujours ce point lumineux. En amour on marche sur du verre. Laisse-moi du temps pour mieux faire. 6 mois, 1 an, ou peut-être quelques heures.
Une chanson douce du chanteur Ours sur France Inter. Ours, un animal déconstruit qui demande un peu de temps pour devenir meilleur. Un choix subtil de notre programmateur Thierry Dupin. Nous avons un ours aussi avec nous, en voie de déconstruction bien sûr, notre réalisateur Christophe Imbert. Et que dire de notre fouineur d'archives, Franck Olivard. Il y travaille aussi, il y a un peu de boulot quand même.
France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
Our country will be woke. No longer.
Notre pays ne sera plus woke. Nous avons mis fin à la tyrannie des politiques dites de diversité, d'équité, d'inclusion dans l'ensemble du gouvernement fédéral et même dans le secteur privé de l'armée. Nous pensons que vous soyez médecin, comptable, avocat ou contrôleur aérien, vous devez être embauché et promu en fonction de vos aptitudes et non de votre race ou genre. J'ai signé un décret déclarant qu'il n'y a que 2 genres, masculin ou féminin. J'ai aussi signé un décret interdisant aux hommes de participer à des sports féminins. Ce que je viens de décrire n'est qu'une petite fraction de la révolution du bon sens qui, grâce à nous, balaie le monde entier. Le bon sens est devenu un thème commun et nous ne reviendrons jamais en arrière. Nous ne laisserons pas cela se reproduire.
Voilà, Donald Trump, vous avez reconnu. Et là, il est question de bon sens. Le bon sens, Nathalie Hennick, cette notion, comment vous la voyez, elle est souvent invoquée et elle est souvent le cache-sexe, finalement, du conservatisme. Et quelquefois, la réaction, le bon sens, c'est finalement le maintien des normes sociales et des hiérarchies sociales.
Oui, tout à fait. Mais il faut bien voir que l'atteinte à ce qu'on appelle le bon sens peut nourrir les réactions populistes de droite. Hein. Et c'est là encore qu'il faut se méfier des effets pervers de ces courants, disons, déconstructionnistes ou déconstructeurs. Mais moi, ce qui m'importe, c'est pas le bon sens, c'est la vérité scientifique. Et c'est le fait qu'il y a bien 2 sexes, pas 2 genres. L'anglais ne fait pas la différence entre gender et... Voilà. Mmh. Genre veut dire à la fois sexe et genre aux États-Unis et en Angleterre, alors que nous, on a heureusement 2 termes.
Vous ne croyez pas en la réalité de quelqu'un d'un sexe qui... se sentirait d'un autre genre.
Et ça, c'est de ce qu'on appelle du genre, c'est-à-dire le ressenti de son appartenance sexuelle. Les gens ressentent ce qu'ils peuvent, c'est leur problème individuel. Mais de là à nier la vérité scientifique de l'existence biologique, hormonale, physiologique, etc., des 2 sexes, c'est du délire.
Pour vous, il ne faut pas que la loi et la puissance publique s'intéressent aux sentiments, aux genres. Elle doit s'intéresser simplement au sexe. Elle ne doit pas prendre en compte les questions de genre.
Mais la loi prend déjà en compte les questions de genre, puisque la transidentité est prise en charge par la loi. Elle est tout à fait cadrée légalement. Il est parfaitement autorisé de changer de sexe à certaines conditions. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est la vogue de changement de sexe sur des mineurs, avec des traitements à vie extrêmement problématiques, qui sont faits souvent pour des raisons de pur intérêt pécuniaire, par des médecins ou de pur intérêt militant par des transactivistes. Donc, là, il y a un vrai problème pour les mineurs. Sinon, il n'y a pas de problème légal. Le problème, c'est il est idéologique. Est-ce qu'on peut accepter qu'une idéologie en vienne à nier des vérités scientifiques? Et là encore, on a une atteinte à la rationalité qui me paraît extrêmement problématique.
Thomas Hockmann, sur la question du bon sens. Souvent, dans les interjections que vous dénoncez dans votre livre « On ne peut plus rien dire », on invoque le bon sens.
Le bon sens montre bien, enfin, qu'on est loin de débats scientifiques, de recherche, de la vérité lorsqu'on invoque. Ouais. Voilà. En fait, vous vous rendez compte, et c'est tout à fait normal dans une émission sur l'anti-wokisme, qu'on parle des discriminations à l'embauche, des différences de sexe, de genre, des violences contre les femmes, de plein de choses extrêmement complexes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, que l'anti-wokisme essaie de réunir dans un grand sac, un grand magma. Il y a l'islam aussi, dedans, il y a d'autres choses.
Il y a une grille de lecture quand même.
Bah, je ne suis pas certain. Il y a surtout une grille de lecture chez celui qui perçoit dans tous ces sujets extrêmement complexes une espèce d'idéologie complètement caricaturale et qui dominerait les débats. À
c'est une idéologie
toujours
communautariste. Excusez-moi, la grille de lecture est là, on ne peut pas le nier. Elle est communautariste.
Mais je ne crois pas
qu'il y ait
communautarisme,
encore une fois.
Elle est
fascinée par la question de la domination.
C'est les chercheurs que vous critiquez, en général, travaillent sur des discriminations. Ce ne sont pas eux qui créent ces catégories ou qui créent des communautés. C'est la discrimination qui crée la communauté qu'elle discrimine. Donc, encore une fois, je comprends pas.
Ah, c'est compliqué.
Pas.
Alors, vous dites la discrimination crée les communautés. Nathalie Hennig, vous dites l'antiracisme nouvelle mode crée la réaction. Si chaque
enferme,
action crée une réaction,
enferme,
c'est...
Enferme les gens dans des communautés imaginaires qui sont en partie...
Elles sont ressenties.
Elles peuvent être aussi basées sur des éléments objectifs comme la couleur de peau, bien sûr, ou comme le sexe, bien évidemment.
La religion,
ou comme
maintenant.
Bien sûr, tout à fait. Mais de là à enfermer systématiquement les gens dans une assimilation obligatoire à ces communautés, il y a un pas énorme qui va totalement à l'encontre de notre tradition universaliste.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire par enfermer les gens ?
Par exemple, l'idée que je serais considérée, quoi qu'il arrive, dans n'importe quel contexte, comme étant une femme et devant être traitée comme telle, est une idée qui me hérisse. Parce qu'il y a des contextes où j'aimerais être traitée comme un chercheur, comme une citoyenne, et non pas systématiquement comme une femme. Ce sont des enfermements identitaires.
Mais je ne vois pas qui vous enferme. Moi, je connais plein de gens à l'université qui, certaines sont des femmes, d'autres sont des noirs. Ils ne s'expriment pas en tant que femmes ou en tant que noirs. Ils travaillent sur des sujets, ils parlent de leurs sujets.
Oui, bah, écoutez, moi j'en connais énormément qui commencent en disant « moi en tant que femme, moi en tant que racisée » ou des gens, comme je le disais encore à propos du procès Pellico, qui vont considérer que tous les hommes sont par définition des coupables. C'est quand même une idéologie qui a pris énormément de place dans l'espace public, qui aurait été inenvisageable il y a une génération
et dont je pense
qu'elle est beaucoup plus pernicieuse que ce que vous le dites.
Et je pense que ce serait à l'anti-wokisme de démontrer. Je veux dire, si on prétend qu'il y a une théière en orbite autour de la Terre, ben c'est à nous de démontrer l'existence de cette théière. Si on prétend que la France est dominée par le wokisme, il faut le démontrer autrement que par des anecdotes.
Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui,
mais non, justement, pas par des exemples.
Aujourd'hui, lorsque on soumet un projet de recherche à l'Agence nationale pour la recherche, eh bien, on doit confirmer, on doit déclarer que ce projet va favoriser l'égalité entre hommes et femmes. Que ce soit un projet de chimie, de physique des particules ou un projet sur l'ethnologie du patrimoine. Et ben voilà, c'est un exemple parmi d'autres à quel point cette idéologie woke a infiltré, notamment dans l'université.
Et donc ça empêche quoi alors de financer des projets hostiles à l'égalité entre
les
hommes et les femmes.
Ça empêche de financer des très bons projets scientifiques simplement qui ne cadrent pas avec le logiciel imposé par ces programmes-là.
Petit échange salé mais courtois entre nos deux invités, Thomas Hockmann et Nathalie Hennig. Nous réfléchissons pendant toute cette heure et jusqu'à 19h à la conception, au thème de l'anti-wokisme. Nathalie Hennig, dans votre livre, vous parlez des droits-libertés et des droits-créances. C'est, Thomas Hockmann, encore un des aspects, vous dénoncez le côté nébuleux peut-être du wokisme, mais c'est un des aspects du wokisme, droit, par exemple, le droit à l'enfant.
Oui. Alors, le droit-liberté, c'est le droit de faire quelque chose, et le droit-créance, c'est le droit à, c'est avoir le droit à quelque chose. Et ce terme de droit à l'enfant a été utilisé, il y a maintenant deux générations, par des militants LGBT pour exiger que l'État compense le fait qu'il ne fasse pas d'enfants par le droit à se marier, avoir des enfants, etc.
Je rappelle que vous avez écrit des textes en 1999 contre le PACS.
Oui.
Vous avez aussi écrit des textes contre le mariage pour tous.
Pour des raisons très simples qui sont justement liées à ce que vous venez de dire sur la différence entre droit 2 et droit A, puisque si j'ai été contre ces mesures, c'est parce qu'elles me paraissaient risquer d'avoir un impact majeur sur la question de la filiation. Et derrière des mesures qui étaient apparemment des mesures simplement d'égalité entre couples hétérosexuels et couples homosexuels, il y avait l'ouverture d'une brèche possiblement très problématique sur la question de la filiation pour les enfants. On aurait parfaitement pu résoudre les problèmes d'inégalité entre les couples selon l'orientation sexuelle par l'extension des droits des concubins aux homosexuels, et les questions principales auraient été réglées. Mais avec le Pax puis le mariage homosexuel, on a utilisé un outil extrêmement lourd, c'est-à-dire la modification du mariage, qui lui-même est une institution qui institue la filiation, pour reconnaître une relation sexuelle entre individus, ce qui, à mon avis, est quand même faire en sorte que l'État ait son droit de regard sur la sexualité.
Nathalie Hedwig, j'ai relu votre texte de 1999, que vous reproduisez en partie dans votre livre, et vous expliquez que sur le Pax, ce qui vous embêtait, un des aspects du Pax qui vous contrariait, c'était que la puissance publique, l'État, s'intéresse ou veuille légiférer sur quelque chose de transgressif. Or, ça voudrait dire que vous considérez que l'homosexualité est transgressif. Donc ça ne colle pas avec l'idée que vous faites de la gauche. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas à chaque fois un peu en retard ?
Non, je suis très en avance. Je suis manifestement en avance parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui...
L'homosexualité n'est pas une transgression aussi ?
Ben, ça dépend du point de vue factuel. Pour certaines personnes, elle est une transgression et pour d'autres, elle ne l'est pas. Voilà. En soi, ça n'est pas une transgression parce que pour un sociologue, le « en soi » n'existe pas. Tout dépend aux yeux de qui elle est une transgression.
Bon, donc, on pourrait militer pour que ce ne le soit pas. On pourrait espérer une société pour que ça ne le soit pas.
Il n'y a plus de juridiction anti-homosexuelle en France et heureusement, il en reste dans les pays les plus rétrogrades, notamment les pays musulmans, mais en tout cas en France, heureusement, il n'y a pas, l'homosexualité n'est pas transgressive juridiquement. Elle le reste moralement pour certaines personnes dont je ne suis pas. Donc le problème n'est pas l'homosexualité, encore une fois. Le problème, c'est le statut des enfants, la possibilité pour les enfants d'avoir droit à la connaissance de leurs origines et d'avoir droit à une généalogie. C'est uniquement là-dessus que je me suis battue.
Droit à et droit de. C'est une question qui précède le wokisme, d'ailleurs.
C'est une distinction très classique en théorie des libertés entre le droit à la sécurité sociale et le droit de s'exprimer librement. Mais vous voyez, là maintenant, on est sur le mariage homosexuel, sur le droit à la filiation plutôt que le droit à l'enfant. Encore une fois, il n'y a rien de commun entre tout ça. Il ne faut pas se laisser abuser par ces prétentions anti-wokistes. Il n'existe pas une idéologie woke qui mènerait le monde ou qui mènerait la France. Ça n'existe pas. Il ne faut pas se laisser duper par cette rhétorique.
Je reviens sur toujours mon même argument. Elle existe bien et elle est au croisement du communautarisme et de l'obsession pour la domination et de l'enfermement des individus dans une communauté considérée comme... discriminer quoi qu'il arrive.
Oui, c'est ça qui est très difficile dans ce débat, en fait, c'est que les faits n'ont pas d'importance. Certains sont convaincus que cela existe, c'est présenté comme une évidence, et on est présenté comme niant le réel lorsqu'on demande simplement une preuve de la véritable domination dans notre société aujourd'hui de cette chose qui n'existe pas, qui est le wokisme.
Alors, on a quand même consacré deux émissions, une qui définit le wokisme et une qui essaye de définir le wokisme par l'anti-wokisme à une chose qui peut-être, d'après Thomas Hockmann, n'existe pas. C'était un défi. Je disais au début de ma première émission sur le wokisme que j'étais pas certain qu'à la fin de cette émission, on ait compris beaucoup de choses. C'est compliqué d'entamer une émission sur ce thème-là, mais en tout cas, c'est toujours bien de parler des mots qui fâchent, des mots qui sont compliqués, des mots qui sont protéiformes pour que le débat soit un peu moins polarisé. C'est ce que vous avez fait ce soir. Je vous en remercie, Nathalie Hennisch et Thomas Hockmann. On retrouve sur le site de l'émission toutes les références de vos deux livres et votre dernier livre qui vient juste de sortir, Nathalie Hennisch, « Penser contre son camp ». Avec nous aux manettes ce soir, il y avait David Diboué-Black et Manu Perrot. Et la semaine prochaine, nous parlerons du concept de guerre de civilisation. Je vous retrouve donc dimanche prochain après le journal de 18h. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.